Et c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec, comme toujours à mes côtés, Jérôme Lavergne. Bonjour Jérôme.
Bonjour Benjamin.
Et focus ce matin une nouvelle fois sur cette opération du groupe Saint-Gobain. Un mois, un métier. On est au mois de janvier. Et ce mois de janvier, il est consacré au métier de l'informatique et du digital, Jérôme.
Oui, tout à fait Benjamin. Cette opération, elle est très précieuse car elle donne un certain nombre d'informations. Bien au-delà des présentations trop formelles, trop académiques des différents métiers, mais par la voix incarnée des collaborateurs, qu'ils soient recruteurs, qu'ils soient les personnels eux-mêmes qui exercent ou apprennent les métiers, parce qu'il faut parler aussi d'apprentissage au sein du groupe Saint-Gobain, qui est une myriade de filiales.
Et on est avec Nicolas Pilbou, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes responsable SIRH Analytics. Alors déjà, pour savoir un petit peu pour nos auditeurs, ça veut dire quoi, responsable SIRH ?
Alors, responsable SIRH, en fait, c'est... je suis responsable d'application sur le périmètre des ressources humaines. Alors, sur mon périmètre, j'ai des applications pour le recrutement, pour la gestion de carrière. Voilà, donc c'est moi, je vais être responsable de ces applications, veiller à ce qu'elles soient stables, parce que des applications informatiques, ça vit, ça évolue, et parfois, bon, malheureusement, ça plante. Et donc, voilà, mon travail, c'est de veiller à ce que ça fonctionne bien pour tous les utilisateurs et veiller à ce que les évolutions, parce qu'on a des évolutions aussi qui viennent du métier ou alors de certains clients, soient bien en place et soient aussi conformes avec les attentes.
Bah oui, parce que j'imagine que effectivement ça vit, et puis alors ces applications, faut les adapter petit à petit aussi selon ce qu'on va rechercher peut-être comme profil. Il y a des évolutions à faire sur certaines de ces applications là. Alors peut-être pas quotidiennement, mais régulièrement.
C'est bien ça, ouais. Alors en fait, on va distinguer deux choses. Donc on a le run, c'est le suivi un peu des incidents ou alors des petits problèmes qu'on peut rencontrer et qu'on peut corriger assez rapidement. Alors c'est ce qu'on appelle le run, c'est ce qu'on a un peu tous les jours, le quotidien. Et d'un autre côté, on a le projet aussi, où là en fait ça va être des projets, des évolutions un peu plus grosses sur les applications. Alors pour donner des exemples, je sais pas, on pourrait dire un nouvel écran par exemple sur la gestion de carrière. On aimerait faire de la gestion de talent par exemple. Ce genre de choses, ça va être un projet qui peut prendre quelques jours, quelques semaines, et on va le gérer un peu différemment.
Et toutes ces applications, elles facilitent le quotidien en fait pour une entreprise, c'est ça quoi?
Exactement. Par exemple là sur mon périmètre, donc le périmètre RH, la gestion de carrière, bon, c'est utilisé tous les jours par les RH. Là en ce moment, on est en pleine campagne d'entretien annuel. Donc là, c'est utilisé par des milliers de personnes dans le groupe Saint-Gobain. Donc là, ouais, c'est vraiment un outil indispensable pour tous les employés.
Bien sûr. Jérôme Lavergne.
Oui, rappelons tout d'abord que le groupe Saint-Gobain, comme je le disais, c'est une myriade de filiales, ce qui accroît encore davantage la difficulté. Je me permets aussi une autre observation, un autre petit commentaire de ma petite lucarne pour observer et de près les sites de recrutement, notamment d'un certain nombre d'entreprises. Le vôtre est sans doute... Et où on a parfois la surprise de s'apercevoir que, y compris pour de grandes entreprises, de grands groupes, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous en termes de sites de recrutement. Le recrutement a parfois été un petit peu négligé, sans doute, pendant un certain nombre d'années. On prend aujourd'hui conscience de son importance. Et avec le recrutement, évidemment, les gestions RH, et franchement, le vôtre, il est archi parfait, et d'autant plus parfait en ayant connaissance de la difficulté initiale de cette gestion de cette myriade de filiales, effectivement.
Nicolas Pilbou, comment on fait justement pour devenir responsable SIRH, pour gérer ces applications dans le domaine des ressources humaines? C'est quoi les formations? Par exemple, la formation que vous avez faite vous-même?
Alors, moi, j'ai aucune formation dans le milieu RH. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est issu de l'informatique à la base. Voilà, très technique. Alors, moi, je suis issu d'une école d'ingénieurs généraliste à la base. Donc, voilà, j'ai évolué vers le milieu informatique. J'étais développeur pendant 4-5 ans. Et après, j'ai évolué sur des postes un peu plus... on va dire avec une vision un peu plus d'ensemble. Donc je suis passé chef de projet informatique, voilà, pendant 2-3 ans. Et après ça, en fait, donc on peut distinguer aujourd'hui en fait deux façons de travailler, le mode de projet on va dire en classique et le mode agile. Et là où j'étais avant, donc avant Saint-Gobain, on est passé sur cette méthode agile, et j'étais product owner pendant 2 ans. Et voilà, tout ça pour aujourd'hui devenir être responsable d'application RH chez Saint-Gobain. Donc je suis chez Saint-Gobain depuis pas très longtemps, depuis moins d'un an, mais voilà, donc tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui.
Pour les auditeurs de Sud Radio qui sont intéressés éventuellement par ce que vous dites, ce que vous racontez, finalement, c'est quoi votre gros plus dans votre métier, ce qui vous plaît le plus, ce qui fait que finalement c'est un métier que vous appréciez tout particulièrement?
Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a, on va dire beaucoup de facettes à ce métier. Bon, je pourrais en dire deux, trois, on va dire. Bon, le travail en équipe, je pense que c'est indispensable. La communication, c'est aussi quelque chose d'important, avec l'anglais, bien sûr.
Oui, ouais.
et le troisième point, bon, comme je disais au départ, hein, c'est vrai que je suis quelqu'un de très technique à la base, et je pense que pour être responsable d'application, il vaut mieux être technique, il vaut mieux comprendre ce qu'on fait, où on va, et comment aussi maintenir une application stable.
Bien sûr. Nicolas Pilbou, un grand merci pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes responsable SIRH Analytics du côté du groupe donc de Saint-Gobain. Merci à vous et bonne journée.
Merci, bonne journée.
Allez, merci à vous aussi, Jérôme Laverny. Bon week-end à vous et puis à lundi pour un nouveau coup de main pour l'emploi.
Bon week-end, Benjamin.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Allez, 6h24 sur Sud Radio, c'est vendredi, le vendredi 21 janvier. On souhaite une très bonne fête aux Agnès, tenez, qui nous écoute. Et puis, un bel anniversaire, bien sûr, à ceux qui sont nés un 21 janvier. Une date chargée d'histoire, car c'est ce jour-là, en 1793, que Louis XVI fut guillotiné, place de la Révolution, devenue place de la Concorde à Paris. Une date chargée d'histoire aussi, puisque c'est un 21 janvier également, en 1869, cette fois-ci, que naquit Rasputin, le conseiller occulte du dernier tsar de Russie, qui continue aujourd'hui de fasciné d'ailleurs au cinéma. La super production Kingsman a choisi de le mettre à l'honneur dans le rôle du grand méchant. Le film est sorti en France il y a moins d'un mois. Tenez, on s'écoute un extrait de la bande-annonce.
Notre invité d'honneur, Rasputin.
Je cherche quelqu'un qui pourrait m'obtenir une audience avec le tsar. Peut-être pourriez-vous m'y aider ?
Je prends des décisions quand mon estomac est plein ou quand mes couilles sont vides.
Eh bien, Dieu merci, le dîner sera bientôt servi.
Eh ben oui, un Rasputin, clairement, qui met les pieds dans le plat. Un peu plus violent, il faut l'avouer, que celui incarné il y a quelques années, souvenez-vous, en 2011, par Gérard Depardieu, qui était aux côtés de Fanny Ardant dans le rôle de la tsarine. Allez, on rebascule dans le présent avec, tenez, un anniversaire qui va faire du bien à nos oreilles. C'est celui de Michel Jonas, 75 ans aujourd'hui.
Dites-moi, dites-moi même.
L'un de ses premiers tubes, Dites-moi. Et on lui dit avec plaisir, joyeux anniversaire Michel Jonas, qui est toujours sur scène. Hein, il continue avec un nouveau spectacle en ce moment qui s'appelle Groove. Et avec notamment une date tenue à Biarritz le 5 avril prochain. En tout cas, bon anniversaire à lui. Allez, 6h26 sur Sud Radio, votre petit matin qui revient dans un instant avec la météo de Rémi André, les pronostics hippiques de Jean-Paul Delpaillé, le retour des infos. Et puis Judith Belair pour cet excellent. À tout de suite sur Sud Radio.
5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.
Le Quintet avec les préférés de Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Et on file aujourd'hui à l'hippodrome de Cannes-sur-Mer.
Avec le prix Charles Gaston qui va se courir sur la piste en gazon sur le tracé des 1500 mètres, ils seront 16 au départ. J'ai choisi en favorite le numéro 8, Aiguère d'Argent, qui est très bien placé sur l'échelle des valeurs. Je me méfie du 2 Romero, du 7 Chiamala, 11 J'aurais dû, 6 Houghton, 16 Carlton Choice, 4 The Life Freedom et le 10 Al-Kamzim. 8, 2, 7, 11, 6, 16, 4 et 10. Toujours à Cagnes-sur-Mer dans la 6ème épreuve, ma sélection du jour, l'As Apistar.
Ah, j'aime bien le 11, j'aurais dû, il est pas mal ce nom en tout cas. Merci beaucoup Jean-Paul Delperrier et vos pronostics à retrouver sur sudradio.fr.
La météo Sud Radio.
Bonjour Rémi André.
Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde.
J'aurais dû mettre un pull, il fait un peu frais ce matin.
Ah oui, effectivement, c'est l'hiver. Et puis, vous savez, maintenant, ça y est, l'anticyclone a regonflé un petit peu. Il protège notre pays pour aujourd'hui ou pour tout le week-end. Mais cet anticyclone va à nouveau bloquer l'humidité près du sol, où vous vous trouvez ce matin, avec des températures hivernales donc toutes proches de 0 degré. Même à Marseille, même s'il fait 2 degrés dans Marseille, à Marignane, on est à moins 1 degré. Sur le bassin parisien, on est proche de 0 degré. À Lille, il ne fait qu'un petit degré. Donc, vous voyez, les températures sont toutes proches de zéro. Et bien, dans la journée, elles resteront à nouveau bien hivernales, comprises entre 2 et 11 degrés, mais avec des différences. Là où nous avons de la grisaille ce matin, elle tardera à se dissiper. On aura du soleil principalement sur le relief et vers la Méditerranée, mais là, avec du vent, Mistral et Tramontane soufflant assez fort.
Merci beaucoup, Rémi André. Très belle journée à tous avec Sud Radio. Un grand merci pour votre fidélité. Les 6h30.
Sud Radio. Parlons. Vrai.
L'heure du journal, et c'est avec vous Marie Dompère. Bonjour Marie.
Bonjour à tous. Bientôt le retour à la vie d'avant, ou presque. Jean Castex a présenté hier soir le calendrier de l'allègement des restrictions sanitaires. Tout se passera au mois de février. 40 000 animaux de compagnie abandonnés l'an dernier en France. Les refuges débordent et les confinements ont une grande part de responsabilité. Et puis l'euro de hand bat son plein en Hongrie. Les Français ont réussi leur entrée dans le tour principal. Mais les joueurs s'inquiètent des cas de Covid en série, dû à une politique sanitaire plutôt détendue. Jean Castex a donc pris la parole hier soir, une fois n'est pas coutume, pour nous annoncer de bonnes nouvelles, car même si le nombre de cas de Covid reste énorme chaque jour, plus de 500 000, la pression dans les hôpitaux n'augmente pas. Le gouvernement parie sur une amélioration de la situation dans les prochains jours et a donc décidé de relâcher un peu la pression, et ce, dès le mois de février. Jean Castex.
À compter donc du mercredi 2 février, tous les équipements, notamment sportifs, et culturels qui accueillent du public assis pourront retrouver un fonctionnement à pleine capacité, sans jauge. Le télétravail ne sera plus obligatoire, mais restera recommandé en laissant aux entreprises le soin de maintenir le bon niveau dans le cadre de leur dialogue social interne. Le port du masque ne sera plus exigé en extérieur.
Première date à retenir donc le 2 février, deux semaines plus tard le 16, les discothèques pourront rouvrir leurs portes. On pourra de nouveau se tenir debout dans les salles de concert ou dans les bars et il sera possible de boire ou de manger dans les cinémas, les stades et les transports. Les cinémas où les non-vaccinés de plus de 16 ans ne pourront bientôt plus se rendre, même avec un test négatif. Le pass vaccinal entrera en vigueur dès lundi, c'est la troisième date à noter. La loi sera promulguée une fois que le Conseil constitutionnel aura donné son avis, c'est prévu pour aujourd'hui. Vaccin obligatoire donc pour se rendre dans les lieux de culture, les bars et les restaurants. Une exception quand même, ceux qui feront leur première dose d'ici au 15 février pourront bénéficier du pass, à condition de faire la deuxième un mois plus tard et de justifier d'un test négatif entre les deux. La vaccination qui sera totalement ouverte aux adolescents de plus de 12 ans à partir de lundi, là on parle de dose de rappel. À noter également que le protocole sanitaire dans les écoles, collèges et lycées sera probablement allégé après les vacances d'hiver, selon les termes de Jean Castex, en fonction de l'avis des autorités sanitaires. Pendant ce temps, en Autriche, le Parlement a adopté la loi sur la vaccination obligatoire pour les adultes. C'est une première en Europe. Elle entrera en vigueur le 4 février. Dans l'actualité également, 5 anciens proches de Nicolas Sarkozy, parmi lesquels Claude Guéant, seront fixés sur leur sort aujourd'hui dans l'affaire des soupçons de favoritisme et de détournement d'argent public à l'Élysée. L'ancien ministre est incarcéré depuis un mois suite à une condamnation dans une autre affaire. Le cri d'alarme de la SPA dans son rapport annuel. L'association indique que 40 000 animaux ont été abandonnés dans toute la France l'an dernier. Et cette fois, les abandons ont commencé bien avant l'été, période où ils sont d'ordinaire nombreux. La faute, selon le président de la SPA, Jacques-Charles Fonbonne, au confinement successif.
On a essayé de dépister les gens qui voulaient un compagnon d'amusement pour les quelques semaines de confinement. Évidemment, ça ne s'est pas fait lorsque les gens ont acheté des animaux dans les animaleries. Ensuite, il y a effectivement le problème de l'absence. Alors, j'avais un animal et je n'ai plus le temps de m'en occuper. Et puis, il y a aussi autre chose, notamment avec les chiens, c'est que des chiens qui ont pris l'habitude d'être toute la journée avec leur maître parce que le maître est en confinement, se retrouvent tout seuls. C'est un phénomène de stress. Donc, ils vont se mettre à détruire l'appartement, à aboyer, ce qui fait que les voisins ne sont pas très contents. Et au bout de très peu de temps, se pose le problème de la conservation ou de l'abandon de l'animal.
Des propos recueillis par Émilie Gébleu. Le sport avec la Coupe d'Afrique des Nations de football et ce coup dur pour l'Algérie. Le tenant du titre a été éliminé dès le premier tour hier après une défaite 3-1 face à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui affrontera l'Égypte dimanche pour le début des huitièmes de finale. Du hand aussi à suivre en ce moment avec l'Euro. Les Français poursuivent leur sans faute, ils ont battu les Pays-Bas 34-24 hier soir pour le début du tour principal. Tout va bien donc pour les Bleus, du moins sur le plan sportif, car sur le plan sanitaire, l'inquiétude grandit face à la multiplication des cas de Covid dans les équipes, comme le constate le gardien Vincent Gérard.
On joue à la loterie là. Le problème, c'est quelle valeur a une compétition où du jour au lendemain, les joueurs partent, les joueurs arrivent. Là, l'Islande, elle se retrouve sans son gardien numéro 1, sans son meilleur joueur. L'Allemagne a eu 12 cas, dont son gardien qui tient l'équipe à bout de bras. On a fait une compétition en Égypte l'an dernier, on a fait les Jeux Olympiques et il n'y a pas eu de cas, il n'y a pas eu de cluster géant. On a l'impression qu'on sort d'une boîte de nuit géante où tout le monde était covidé. Ce que j'ai peur moi, c'est de me réveiller là, je vais aller me faire tester. Pas de symptômes, je suis plutôt bien, je suis plutôt bon. Et de me réveiller demain et qu'on me dise bah va t'isoler et bah tu pourras pas rejouer. Je joue pas aux jeux à gratter, je joue pas au loto et encore moins quand il s'agit de mon métier.
Prochain rendez-vous pour les Bleus demain à 18h face à l'Islande. C'est la fin de ce journal. Très bonne matinée avec Sud Radio.
Et merci à vous, Marie Dompère.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
6h36 sur Sud Radio, très bon réveil à tous. Bah oui, on se réveille petit à petit, c'est vendredi, bientôt le week-end pour les plus chanceux, mais on pense bien sûr aussi aux autres. Vous êtes nombreux à bosser, à travailler le week-end et bien sûr Sud Radio est là pour vous accompagner aussi tout au long du week-end. D'ici là, eh bien à 6h50, c'est Patrick Roger, c'est le minibus qu'on va retrouver bien sûr pour notre plus grand plaisir. Et juste avant, eh bien curieux comme Rémi, on parlera de télémédecine, voilà ce que ça veut dire exactement, parce que c'est parfois peut-être un petit peu flou. Et puis le contrat de la Discord, dans hashtag on en parle sur Sud Radio, on parlera de ce contrat de près de 500 000 euros signé par l'État avec le cabinet privé, le cabinet de conseil McKinsey. Je vous en dis un peu plus dans un instant, mais tout de suite, c'est Judith Belair avec son rendez-vous bien sûr du vendredi matin, c'est excellent. Un jour un métier. Bon réveil avec Sud Radio.
Copropriétaire, propriétaire, votre toit vaut de l'or. Vendez votre droit de surélévation, financez vos travaux de rénovation énergétique, renforcez votre trésorerie, créez de nouveaux logements avec Valerti. Estimation gratuite de votre droit de surélévation sur valerti.com. Valerti vous présente...
Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair.
Aujourd'hui, il s'agit d'aborder un métier que nous connaissons tous, sans pour autant en connaître les ficelles cachées, celui de galeriste. Peut-être que Bertrand Grimont, à la tête de sa galerie du même nom à Paris, va réussir à nous éclairer un peu plus en quelques minutes. Bonjour et bienvenue Bertrand Grimont.
Bonjour.
Racontez-nous déjà, qu'est-ce que c'est que l'essentiel du travail de galeriste ?
Alors l'essentiel du travail d'un galeriste est surtout un travail de fond qui se fait sur la durée, avec des artistes que l'on croise et avec lesquels on va construire une histoire et un chemin parcouru très complexe sur leur démarche avant tout. C'est-à-dire que je n'ai jamais choisi les artistes d'un point de vue monétaire, si j'ose dire, mais plutôt pour leur démarche. Et ensuite, il y a tout un travail de fond qui se fait au travers des expositions, donc souvent un travail monographique, au sein de la galerie, et qui est développé ensuite par tout un tas d'autres espaces de référence qui sont les musées, les foires, les centres d'art. Donc il y a plusieurs acteurs qui rentrent en compte pour mettre mettre en exergue leur démarche. Et,
D'accord. Donc c'est une rencontre humaine avant tout avec des gens qui sont dans une démarche, dans un engagement. C'est comme ça que vous les choisissez ?
C'est absolument comme ça que j'ai toujours choisi mes artistes.
Par goût aussi, on imagine, Bertrand Grimond ?
Pardon ?
Par goût ?
Il y a toujours une identité qui va se souligner de manière peut-être inconsciente, mais en tout cas, je pense que tous les artistes travaillent de manière un peu pluridisciplinaire. Ces artistes qui travaillent souvent dans une idée de culture des matériaux, donc qui s'articulent aussi bien, ce n'est pas un simple objet de circonstance de mise en vue, mais ça peut s'articuler autour de l'architecture, du design, de la science. C'est souvent des croisements de disciplines.
D'accord. Vous aimez les artistes multifonctions, en fait. Hein.
Multifonctions, mais c'est souvent des croisements. C'est pas forcément, même si c'est des voies qui restent parallèles, ce qui est intéressant, c'est au moment où ces voies se
croisent. Quand ça se rencontre. Ouais.
Voilà.
Et alors, pourquoi vous êtes devenu galeriste, vous, Bertrand Grimond ?
Alors, je suis devenu galeriste parce que, depuis tout petit, j'étais passionné par l'art contemporain et j'ai travaillé très jeune au CAPC de Bordeaux. Mmh. Et ça a été vraiment le déclencheur et ce qui a décidé de faire de l'art mon pivot de vie, si j'ose dire. Donc, depuis très jeune, c'est vraiment.
D'accord. Et pourquoi galeriste et pas artiste, alors ?
J'avais un côté un peu artiste, je pense, au départ, mais qui, finalement, ensuite. Le travail m'a mené ensuite sur Paris, chez Emmanuel Perrotin, et je voulais être plutôt conservateur de musée. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de monter des expositions avec un parcours de scénographie, etc. Et d'avoir travaillé, de mettre à l'épreuve la théorie par la pratique, m'a amené à voir que je pouvais défendre et montrer un point de vue par rapport au réel d'artiste et rendre visible certaines choses qui m'intéressaient.
D'accord. Et alors finalement, vous rendez l'art accessible. On le sait, les galeries, pendant le confinement par exemple, ont été les seuls lieux où on pouvait voir de l'art gratuitement toute l'année. On imagine que c'est aussi un engagement très clair de votre part. Hein.
Très clair, mais qui était très difficile, bien entendu, puisque bon, voilà, il a fallu s'adapter à beaucoup de choses. Et puis même d'un point de vue financier, on a été privé de foires, on a été privé de certains sports avec des artistes à l'étranger. Donc il a fallu réduire la voilure et s'adapter sur d'autres modèles, notamment tous les modèles que pour le moment je suis en train de développer, mais bon, je suis trop dans l'aspect concret et réel. Mais toutes les notions de digital, par exemple, il y a beaucoup d'autres moyens maintenant, d'autres modèles de communication avec notamment les réseaux sociaux qui se sont développés. Et donc, c'est ce que je suis en train de mettre en œuvre en ce moment avec des collaborations, notamment avec d'autres sphères de l'art, comme des collaborations qu'on a fait, par exemple, avec Many Design et le printemps pour la rentrée. Donc, j'essaie d'ouvrir d'autres modèles que... D'autres modèles classiques pour faire venir d'autres gens de bonne manière et redonner aux gens de venir en galerie aussi. Puisque c'est,
Merci beaucoup, Bertrand Grimond. On vous souhaite longue vie en tout cas. Et merci pour les auditeurs, ils peuvent trouver tous les artistes de vos galeries, les expositions en cours, etc. sur votre site internet qui est www.bertrandgrimond avec un T à la fin.com. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Au revoir. Merci.
Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair.
Vous a été présenté par Valerti, copropriétaire. Propriétaire, votre toit vaut de l'or. Vendez votre droit de surélévation. Financez vos travaux de rénovation énergétique. Renforcez votre trésorerie. Créez de nouveaux logements avec Valerti. Estimation gratuite de votre droit de surélévation sur valerti.com.
Et merci à Judith Belair. Judith, que vous retrouverez sur Sud Radio à 19h dans cet excellent l'émission. Donc, dimanche, allez, 6h42 tout de suite, c'est Rémi André pour Curieux comme Rémi.
Sud Radio, Curieux comme Rémi, Rémi André.
Et le vendredi, c'est le curieux mot du vendredi. Et ce mot aujourd'hui, c'est télémédecine. Alors Rémi, tout le monde connaît maintenant ce terme, mais parfois c'est difficile d'en définir exactement, d'en discerner les contours. Alors c'est quoi Rémi ?
Alors, en effet, la télémédecine regroupe les pratiques médicales permises ou facilitées par les télécommunications. C'est un exercice de la médecine par le biais des télécommunications et des technologies qui permettent les prestations de santé à distance et l'échange de l'information médicale s'y rapportant. Alors, selon le Code de santé publique, article L6316-1, elle est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Bon, tout ça c'est bien à dire, Rémi, mais pourquoi parle-t-on autant de la télémédecine aujourd'hui ?
Alors, ce n'est pas bien compliqué à expliquer, car les déserts médicaux ne sont plus des mirages. Nous sommes 7,4 millions de Français, d'après l'Observatoire de la Mutualité française, ou 5,4 selon les autorités de santé, à souffrir de difficultés d'accès à des professionnels de santé. Si les chiffres varient fortement d'une source à l'autre, il n'en résulte pas moins que cette problématique concerne un trop grand nombre de personnes dans l'Hexagone, comme dans le reste du monde.
Oui, en fait, Rémi, la télémédecine est... C'est une sorte de palliatif au déclin du système de santé, c'est ça ?
Oui, c'est presque ça. Une situation à laquelle entend remédier une jeune entreprise basée à Nice, Bodio, avec ses solutions de télésanté. Cette jeune entreprise basée à Nice permet d'établir un bilan de santé en 6 minutes et en totale autonomie pour améliorer la médecine préventive, soulager le travail des professionnels de santé et lutter contre les déserts médicaux. L'entreprise a donc développé des dispositifs permettant d'établir un bilan de santé donc en 6 minutes et en totale autonomie, ce qu'ils appellent le Health Lounge ou l'iPod. À partir de 26 paramètres analysés, comme le poids, la tension artérielle, l'oxygénation du sang, le patient aura accès à des conseils en prévention pour maintenir sa forme ou un rendez-vous avec un spécialiste en mode téléconsultation en cas de problème. Vous entrez dans une cabine, vous en ressortez avec votre bilan de santé et un éventuel rendez-vous chez un spécialiste. Eh bien, c'est moderne, stylé et adapté à notre monde connecté.
Et ben voilà, merci beaucoup Rémi André. Allez, 6h45 dans un instant, c'est le Minibus et Patrick Roger. Puis juste avant ça, on parle de ce contrat de la discorde signé par l'État avec McKinsey au sujet de l'éducation nationale. Restez bien avec nous sur Sud Radio, à tout de suite.
5h-10h, le grand matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
6h48 sur Sud Radio, c'est le rappel des titres. Et Jean Castex, le Premier ministre, qui annonce un calendrier de levée des restrictions. Il sera conditionné par le pass vaccinal qui, sauf avis contraire du Conseil constitutionnel, aujourd'hui sera obligatoire dès 16 ans à partir de lundi prochain. Deux autres dates à retenir. D'abord le 2 février avec la fin des jauges et du masque à l'extérieur. Et puis le 16 février, réouverture des discothèques et retour des concerts et de la consommation debout dans les bars. Éric Zemmour sera bien jugé pour contestation de crimes contre l'humanité. La Cour d'appel de Paris a rejeté hier la demande de renvoi déposée par le candidat à la présidentielle. Et puis en sport, quatrième match et quatrième victoire pour les Bleus à l'Euro de handball. Les champions olympiques ont largement battu les Pays-Bas, le score 34-24. Tout de suite, hashtag on en parle sur Sud Radio. McKinsey, Accenture ou encore Sitwell, quelle est l'influence réelle de ces cabinets privés sur nos politiques publiques et à quoi servent-ils vraiment? C'est pour répondre eh bien, notamment à ces questions que le Sénat a lancé une commission d'enquête sur le sujet. À ce titre, une vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agit d'un passage de l'audition de Karim Tajeddine de McKinsey France. Le rapporteur communiste Eliane Assassi l'interroge à ce moment-là sur un constat, un contrat passé avec le gouvernement pour une mission auprès du ministère de l'Éducation nationale. Le montant de ce contrat près de 500 000 euros. Alors, comment expliquer un tel montant? On écoute la réponse de Karim Tajeddine. Pour info, il parle notamment au début de la DITP, qui est la Direction interministérielle de la transformation publique.
Notre rôle a été d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu par le ministère en lien avec l'ensemble d'organisations internationales pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché, des évolutions du secteur de l'enseignement, quelles étaient les évolutions aussi attendues du marché d'enseignants.
Ben oui, c'est pas très clair, je sais pas vous, mais en tout cas, la rapporteure ne s'est pas privée de lui dire que c'était pas très clair.
Oui, je trouve que cette réponse est un peu imprécise, quand même, parce que c'est une somme assez conséquente, quand même. Donc, ça aboutit à quoi, précisément?
Il s'agissait d'une part de travaux de benchmarking, de comparaison, de quelles avaient été les évolutions faites par un ensemble de pays européens, pour anticiper les évolutions du métier d'enseignant.
Voilà, tout ça pour un séminaire. Forcément, ça fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est pas très clair. Notamment, alors, cet internaute qui s'agace, au gouvernement jette par la fenêtre de l'argent public pour remplir les poches de leurs amis. Oui, ça y va fort. Ce qui étonne aussi certains, c'est le choix des mots de ce patron de McKinsey qui parle de benchmarking ou encore d'évolution des marchés pour parler d'éducation nationale ou encore d'instruction publique. En tout cas, la ministre Amélie de Montchalin, qui était elle aussi entendue par le Sénat, a fait une promesse. Elle indique que l'État baissera de 15% en 2022 ses dépenses auprès de ses cabinets de conseil privés. À voir si cette promesse sera donc tenue. Allez, 6h50 sur Sud Radio. Tout de suite, on accueille Cécile de Minibus et Patrick Roger.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Minibus.
Bonjour Patrick, bonjour Cécile.
Bonjour Cécile,
comment
bonjour Benjamin.
Bah c'est voilà, mieux avec le micro.
Oui, c'est ça, avec le micro.
Moi, je vous entendais bien dans le studio, mais nos auditeurs, malheureusement pas. Oui.
En ce vendredi
disais,
21 janvier, bienvenue à l'écoute. Bah oui, bien sûr, déjà, ça file. Et il y en a certains qui ont envie que ça avance un petit peu plus vite pour sortir aussi de cette séquence autour du Covid. C'est vrai qu'il est quand même relativement longue. Alors là, ça donne un peu de perspective avec cette levée des restrictions jusqu'à mi-février. Dans les bars, on pourra de nouveau consommer un petit peu plus librement. On pourra aller, même aussi pour certains, mon cher Benjamin, c'est pour vous ça, en discothèque. Vous ferez les deux. Vous pouvez aller. Alors, vous pouvez d'ores et déjà aller au cinéma. Hein, bien sûr. Vous avez vu que ça, quand même. Et on pourra probablement aussi consommer un petit peu au cinéma. Le popcorn, mais ça uniquement dans 15 jours, 3 semaines.
Ah non, il faut arrêter le popcorn au cinéma.
C'est ouais. Il faut l'interdire. Non mais je parle de cinéma parce que nous aurons d'ailleurs un réalisateur qui sera avec nous tout à l'heure, parce que le cinéma a souffert quand même pendant ces 2 ans avec des salles qui se sont pourtant modernisées ces dernières années, et là c'était incroyable, des salles vides, alors que c'est vrai qu'il y a un vrai plaisir d'aller voir un film sur grand écran. Là en l'occurrence, nous aurons le réalisateur de ce film Adieu Monsieur Hoffman, Fred Cavaillé, réalisateur où il y a dans ce film Daniel Auteuil, Gilles Lelouch et Sarah Giraudeau, film assez extraordinaire. C'est un peu le film du Covid, parce que souvenez-vous, il avait été tourné, il y avait des décors du côté de Montmartre pendant la période de confinement, et c'est
ça
assez
a été laborieux d'ailleurs.
Oui, ça avait été effectivement laborieux. Il sera avec nous tout à l'heure pour nous dire si ça marche. Le cinéma, son film qui est sorti il y a 10 jours. Et puis nous aurons aussi un autre invité exceptionnel, Manuel Valls, qui sera avec nous, l'ancien Premier ministre, qui a sorti un petit livre sur Éric Zemmour, Zemmour l'anti-républicain. Il explique en fait pourquoi, lui, il s'oppose à Zemmour, comme il s'oppose en fait à l'extrême-gauche. Il sera avec nous et vous pourrez lui poser les questions. 0826-300-300, si vous en avez, vous appelez
déjà
immédiatement. Oui, vous pouvez vous inscrire. Vous appelez Manu au standard et on vous rappellera. Il sera là tout à l'heure entre 8h15 et 9h moins le quart. Et beaucoup d'autres rendez-vous, évidemment, en ce vendredi 21 janvier.
Et on continue ensemble jusqu'à 10h avec Sud Radio à votre service déjà.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.
Et proche aussi de nos soignants, puisque c'est le cas de Freddy Eustache. Bonjour Freddy.
Bonjour à tous.
Vous êtes fondateur de gelablouse.com, qui est un nouveau média consacré au personnel de santé disponible sur le net. Ce média est né, j'imagine, de la crise sanitaire. C'est une façon d'évoquer pour vous le quotidien des soignants.
Ce média est né par rapport à la crise sanitaire, c'est vrai, mais est né aussi de mes observations et de mes expériences de vie, où à un moment donné, j'avais envie de donner du sens. Après avoir fait de l'entrepreneuriat sur pas mal de choses, j'avais envie de trouver quelque chose qui rayonne vraiment, qui donne du sens et qui peut aider des gens et le maximum de personnes si possible.
Alors, il s'adresse aux soignants, mais pas que. C'est-à-dire que c'est une façon aussi pour les non-soignants d'aller voir le quotidien, justement, des personnels de santé.
Alors l'idée à la base, c'est qu'on s'adressait vraiment aux infirmiers et en rencontrant des infirmiers qui soient en hôpital ou en libéral qui nous parlent, on s'est rendu compte que les problématiques d'accompagnement, de valorisation, ces problématiques intéressent tous les soignants. Donc du coup, on est passé des infirmiers qui soient libéral ou pas à l'ensemble des soignants. En tout cas, on essaie de parler au maximum de soignants, mais c'est aussi l'occasion, comme vous le disiez, de faire en sorte que le monsieur tout le monde puisse comprendre le quotidien d'un soignant, puisse comprendre les difficultés qu'il peut rencontrer, et peut-être que ça permettra de râler un peu moins aux urgences. Et de mieux comprendre le quotidien de nos soignants, en fait.
C'est ça, parce que il y a pas mal de sujets qui sont abordés. En l'occurrence, la violence parfois des patients à l'encontre des soignants.
Oui, en fait, c'est une problématique qui revient régulièrement lors des échanges qu'on peut avoir avec les soignants. Alors, moi, je viens pas du monde des soignants, et justement, j'essaie de garder, d'avoir un regard vraiment autre, le regard de Monsieur Tout-le-Monde. Et quand on échange avec les soignants, ils nous parlent régulièrement de cette violence. Donc, du coup, on a décidé d'en parler, de faire des focus dessus, de sortir des podcasts dessus régulièrement, parce que c'est une vraie problématique et on a de nombreux soignants qui en payent les frais, que ce soit à domicile ou pas, hein, puisqu'on pourrait croire que les libéraux sont un petit peu plus épargnés, mais pas forcément. Et puis la violence, elle n'est pas seulement physique, elle est sur un regard, parce que tout le monde est sous tension.
Sur les conditions de travail en général, d'ailleurs. Hein, sur les...
Exactement. Oui. Donc chacun exprime cette violence à sa manière, et donc du coup, pour nous, il est important de la faire connaître pour y apporter des solutions.
Alors rapidement, c'est une façon bien sûr de leur rendre hommage, mais pour que ça perdure forcément, il faut vous aider financièrement. Donc vous avez lancé un financement participatif sur le site KissKissBankBank, c'est ça ?
Ah ben voilà, donc d'ici quelques temps, c'est pas encore lancé officiellement, mais d'ici quelques temps, on va y aller pour un financement participatif. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce projet, il est parti d'une initiative d'entrepreneur personnel, en l'occurrence moi. Oui. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin. Nous, on s'attelle à faire ce qu'on appelle le SAV des soignants, c'est-à-dire service, accompagnement et valorisation. Service, leur apporter toutes ces informations qui peuvent les aider au quotidien, accompagner, écouter, et on travaille entre autres avec des associations comme la FPS et la valorisation des métiers.
Et ça demande de l'humain, et ça demande du travail. En tout cas, on voulait vous remercier et embrasser bien la Guadeloupe, puisque vous nous appelez de Pointe-à-Pitre. Merci en tout cas Freddy Eustache d'avoir été avec nous. Donc fondateur de gelablouse.com, allez voir sur ce site, il y a pas mal de choses et c'est un bel hommage au personnel soignant. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio, on est ravis de vous retrouver, c'est vendredi, tout va bien.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.